Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val-d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Mes invités du jour sont tous avocats en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et je les remercie vivement d'être venus partager cette matinée avec nous. Bonjour, maître Stéphane Alemo.
Bonjour, Sonia.
Bonjour, monsieur le bâtonnier. Vous nous expliquerez, vous êtes le bâtonnier du barreau du Val-d'Oise. Vous êtes en fait notre big boss. Alors, vous nous raconterez votre parcours, dans quelle matière vous exercez, et vous nous éclairez aussi sur les fonctions de bâtonnier. À vos côtés, maître Sébastien Thau, bonjour.
Bonjour.
Votre cabinet est situé à Pontoise. Vous exercez notamment en droit du travail et en droit des affaires et vous répondrez aujourd'hui aux questions des auditeurs en droit du travail et qu'elles émanent de salariés ou d'employeurs. Enfin, merci à maître Linda Deradji-Deloire d'avoir accepté une nouvelle fois de participer à l'émission Tous les droits.
Bonjour Sonia.
Votre cabinet est situé à Pontoise et à Paris et vous intervenez en droit de la famille, en droit du travail et de la sécurité sociale et vous nous apporterez votre expertise sur des questions en droit de la sécurité sociale, matière très technique, parfois méconnue. Et je vous remercie de revenir pour passer une matinée avec nous. Bienvenue, merci d'être mes invités sur IDFM Radio pour ce troisième numéro de Tous les droits. Une émission bien sûr à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Et tout de suite, je me tourne vers vous, monsieur le bâtonnier, maître Stéphane Alemo. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours, comment vous êtes devenu avocat, quand vous avez prêté serment?
Oui, alors très rapidement. Comme beaucoup, je pense, j'avais pas l'intention initialement d'être avocat, je voulais être journaliste, pour être tout à fait franc. Voilà, parce que mon parrain était un grand reporter sur France 2, il me faisait toujours rêver par ses voyages, par ses interventions, et je voulais vraiment faire ça. Mais évidemment, comme tout jeune qui se respecte à l'époque, j'anticipais pas l'avenir et je suivais mes études au fil du jour. Puis finalement, je me suis mis à faire du droit en me disant que ça va m'amener à tout, peut-être au journalisme. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocat d'un confrère qui est maintenant parti à la retraite, il s'appelle Michel Acli. Et j'ai mis le pied dedans, ou le doigt dedans, puis finalement, je suis jamais sorti de là. Ça m'a vraiment passionné le droit dès le début de mes études, c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à devenir avocat. Après, succinctement, j'ai prêté serment en janvier 99, donc c'était quand même il y a un bout de temps, ça fait 25 ans maintenant. Et puis petit à petit, je me suis investi dans les fonctions ordinales, c'est-à-dire tout ce qui est action commune de tous les avocats. J'étais membre du conseil de l'ordre, je m'occupais notamment de la collaboration, des problèmes de sous entre un client et son avocat, ça s'appelle la taxation des honoraires, donc j'arbitrais, ça m'avait vraiment plu. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'étais aussi président d'un syndicat d'avocats, l'Union des jeunes avocats. Et je me suis dit, pourquoi pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire représenter l'ensemble des 500 avocats du barreau et d'être bâtonnier. En un mot, parce que vous m'avez demandé ce que c'était un bâtonnier, j'imagine que dans l'esprit des gens, c'est pas tout à fait clair. Bâtonnier, d'abord, je suis avocat comme tout le monde, comme mes confrères qui sont assis à côté de moi. J'ai mon cabinet d'avocat encore à continuer à faire fonctionner au jour le jour. Et à côté de ça, je suis investi d'un mandat de 2 ans. Qui prendra fin ce qui me concerne au 31 décembre de cette année-là. Le bâtonnier, pour faire très simple, il représente l'ensemble des avocats de son barreau. Là, il y en a à peu près 500 sur le barreau. Je n'ai pas de pouvoir hiérarchique sur les avocats, je peux pas leur dire ce qu'il faut faire, pas faire, sauf sur un seul point, qui est celui de la déontologie, qui est pour nous un peu notre ADN. On doit respecter des règles en fait de bonne conduite, de bonne vie, je dirais. Et si un avocat enfreint ces règles déontologiques, le seul moyen que j'ai moi de pression dessus, c'est j'ai un pouvoir disciplinaire. Sur les avocats, je peux engager des poursuites, mais je vous rassure, ça arrive excessivement rarement parce que les 500 avocats du barreau de Val-d'Oise sont exemplaires.
Ah, c'est très important de le rappeler à nos auditeurs.
Exactement.
Donc, 500 avocats au barreau du Val-d'Oise. Je sais que le barreau du Val-d'Oise a un lien particulier avec IDFM Radio, puisqu'on a signé un partenariat. L'actualité du barreau du Val-d'Oise est riche. Est-ce que vous pouvez rappeler dans quelle mesure le barreau peut être présent sur certains événements type salon effervescence par exemple ou...
En fait, on a plusieurs partenariats. Le premier que vous avez cité, c'était celui effectivement avec votre radio qui nous permet à nous d'intervenir les avocats au service des justiciables et de vos auditeurs en ce qui vous concerne, de dispenser certaines informations juridiques de manière générale. On le fera aujourd'hui, vous l'avez déjà fait, on le refera encore plus tard. Ça, c'est un des partenariats. Et une autre forme de partenariat que j'ai particulièrement développé pendant mon mandat, avec l'appui bien sûr de mes membres du Conseil de l'Ordre, ceux qui m'aident, qui m'entourent, avec les entreprises, qui consiste à aussi dispenser des informations, des consultations à destination des entreprises, mais aussi réaliser des after-works ou des petits déjeuners thématiques sur des thématiques touchant le droit des entreprises, quel qu'il soit, droit du travail, droit des sociétés tout simplement, droit commercial, de manière tout à fait classique, et ça de manière récurrente tout au long de l'année. Donc voilà, une sorte de partenariat. Puis à côté de ça, on fait aussi des formations qui sont destinées à tout le public, entreprises et les particuliers. Et on engage aussi des formations destinées aux avocats propres à eux-mêmes. Là, très prochainement, je voulais juste passer le mot, on va recevoir la représentante nationale des avocats de France, qui est Julie Couturier, la présidente du Conseil national des barreaux. Pour nous, c'est très important d'avoir un langage direct entre les instances nationales et les instances locales. Barreau de Val-d'Oise, c'est l'un des 164 barreaux de France. Voilà, et il y a une institution nationale qui représente tout le monde, ça s'appelle le CNB. Voilà.
Mais 500 avocats, donc c'est un gros barreau.
En termes d'effectifs, à peu près le 20e barreau de France sur les 164, ce qui est quand même pas négligeable. Oui, c'est quand même un gros barreau quand même de France. Les fonctions du coup de bâtonnier sont assez chronophages, il faut quand même l'admettre. Mais c'est un gros barreau qui, en ce qui nous concerne, c'est un barreau qui est très jeune, parce que sur les à peu près 500 avocats, j'avais fait le décompte il y a pas très longtemps, on est à peu près 200 à avoir à peine 10 ans d'exercice professionnel. Donc c'est un barreau qui est très jeune, c'est un barreau qui est très féminin, puisque 65% du barreau est composé de femmes. Il faut s'en féliciter. Et c'est un barreau aussi qui, depuis très longtemps, a eu une femme bâtonnier, ce qui n'est pas le cas partout. Donc j'en suis vraiment franchement très fier. La première femme bâtonnier, c'était dans les années 60 ou 70, je ne sais plus, mais dans ces environs-là, ce qui était assez précurseur pour l'époque.
Et notre prochain bâtonnier sera
une femme
que nous recevrons avec plaisir également sur IDFM Radio. Et je précise également, donc vous avez rappelé les partenariats du barreau du Val-d'Oise. Je rappelle aussi que les avocats sont présents sur tout le territoire du Val-d'Oise et notamment dans les mairies où il y a des consultations au sein des tribunaux aussi. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu comment s'organisent ces permanences qui sont gratuites?
Oui, tout ça s'organise autour du CDAD et effectivement régulièrement, en fait toutes les semaines, les avocats dispensent des séances d'information, soit dans les mairies, soit dans les maisons de justice, pour les points d'accès au droit. Il y en a en tout et pour tout entre les mairies et toutes ces institutions-là, une dizaine, sur tout le département. Donc ça, c'est pas simplement réservé sur Pontoise où il y a une concentration forte d'avocats, mais c'est partout sur le département, à Villers-le-Bel, Sarcelles, etc. Et toutes les semaines, vous avez des consultations qui sont dispensées par les avocats dans toutes les matières. Il y a des informations générales, mais aussi des informations plus dédiées en droit de la famille, en droit du travail, etc., etc. Ça répond, je crois, vraiment à une attente du justiciable d'être pleinement informé de leurs droits. Vous l'avez dit tout à l'heure, le droit se complexifie, ça c'est très vrai. D'autant plus qu'il ne faut pas voir simplement ça sous le prisme du droit français. Il y a beaucoup de textes internationaux, européens, qui s'appliquent directement au droit français. Ce qui fait que dans l'esprit du justiciable, on a du mal un petit peu à s'y retrouver. Parfois aussi, il faut le dire, pour nous les avocats, c'est pas toujours évident, mais on y arrive, c'est un peu notre métier. Donc toutes les semaines, vous avez des consultations qui sont offertes par les avocats, y compris aussi au palais de justice. Donc si vraiment vous avez une question juridique qui vous taraude, vous aurez une réponse assez rapidement en réalité à cette question-là, en prenant attache directement soit avec le tribunal, soit avec l'ordre des avocats qui vous dirigera utilement.
Merci pour ces précisions. Et alors, vous parliez de ce droit qui se complexifie, de ces législations internationales que l'on doit appliquer. Et je le dis régulièrement dans cette émission, alors les avocats ont tous une formation commune, mais après on se spécialise tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les avocats ont l'obligation de se former tout au long de leur vie. Et je voudrais juste que vous puissiez rappeler aux auditeurs que pour trouver un avocat dans un domaine d'activité particulier, quand on en connaît pas, l'Ordre des avocats a un site internet avec un annuaire. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler comment ce site fonctionne?
Alors effectivement, c'est un site internet. Vous tapez simplement sur Google l'Ordre des avocats ou Barreau du Val-d'Oise, vous allez tomber directement sur notre nouveau site qui est en pleine réflexion, mais il est assez abouti maintenant. Et quand, lorsque vous cherchez un avocat, bien sûr, vous pouvez chercher un avocat avec le nom de l'avocat si vous connaissez celui-ci, mais vous pouvez également chercher un avocat par domaine d'activité. Par exemple, c'est un problème, je suis salarié, je viens d'être licencié, vous chercherez un avocat en droit du travail et vous cliquez l'onglet droit du travail et éventuellement couplez ça avec la ville dans laquelle vous cherchez un avocat et automatiquement le nom de cet avocat-là ressortira. C'est vrai pour toutes les matières, en pénal notamment, en droit administratif, etc. Donc on a un site internet qui est assez bien fait, qui est dédié à cela et qui est assez facile d'accès.
Donc 500 avocats dynamiques, jeunes, féminins pour l'essentiel, avec des points d'accès au droit. Enfin voilà, donc les avocats sont présents sur le territoire français. On peut chercher, enfin sur le territoire du Val-d'Oise et le territoire français heureusement. Vous pouvez trouver des informations dans les maisons du droit, dans les palais de justice, dans les points d'accès au droit. Vous l'avez rappelé. Merci, Maître Stéphane Alemo, pour cette présentation de votre barreau, de votre parcours. On marque une pause et nous nous retrouvons pour poursuivre les interviews de mes invités du jour.
Jamais je ne lui avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour. Chaque instant, chaque jour. Et quand je pensais pas revoir la lumière, tu as fait fuir en moi toute ma colère. Mon BPM depuis s'accélère. Oh, j'ai l'impression que tu me connais par cœur. Ravi que mes défauts ne t'aient pas fait peur. Tu es le plus bel acteur. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir notre avenir. Petit à petit, entendre nos fous rires. Je me sens légère maintenant que tu es là. Je te dis je t'aime un peu, pris 100 000 fois. Jamais tout est depuis le début. Le bon c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'adore tes yeux, ton corps et dans tes bras. Je te dis je t'aime, t'aime, t'aime un peu près 100 000 fois. Jamais tout est depuis. C'est toi, dans mon petit cœur depuis le début, le bon c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début, le bon c'est toi. C'est toi, toi, toi. Mon fils, c'est de voir notre avenir. Petit à petit, entendre nos fous rires. Je me sens légère maintenant que tu es là. Je t'ai dit je t'aime un peu, pris 100 000 fois. Jamais douté depuis le début, le bon c'est toi. C'est toi, c'est toi. J'adore tes yeux, ton corps et dans tes bras. Je t'ai dit je t'aime. T'aime à peu près 100 000 fois. Jamais tout est depuis le début. Le bon c'est toi. C'est toi, toi, toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon c'est toi. C'est toi, toi, toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début. Le bon c'est toi. C'est toi, toi, toi.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes bien dans Tous les droits, une émission consacrée ce matin aux droits du travail et de la sécurité sociale avec à mes côtés Maître Stéphane Alemo, Maître Sébastien Thau et Maître Linda Deradji-Deloire. Maître Sébastien Thau, est-ce que vous pourriez présenter à nos auditeurs votre parcours, comment vous êtes devenu avocat, quand est-ce que vous avez prêté serment ?
En quelques mots, j'ai prêté serment le 1er mars 2004, il y a donc 20 ans, après m'être dans un premier temps engagé dans des études scientifiques. J'ai estimé que ma place était probablement mieux trouvée à l'université de droit, donc j'ai entamé des études de droit qui se sont terminées par un DEA de droit privé, de droit commercial et un DSS de droit des affaires. Et puis, comme mes confrères à côté de moi et nombre de confrères, je suis passé par une collaboration qui était d'ailleurs obligatoire à l'époque, dans un cabinet qui existe toujours, c'est le cabinet de Michel Ronzeau. Ensuite, une installation et une association au sein du cabinet Vaudroit, qui est un cabinet pluridisciplinaire, que j'ai intégré en tant qu'associé en 2017, cabinet dans lequel j'interviens donc en droit des affaires et en droit du travail. Cabinet qui est composé actuellement de 7 associés, 6 collaborateurs, avec le personnel salarié, nous sommes une vingtaine à venir travailler tous les jours dans le cabinet, qui est à la fois évidemment très ancré dans le Val d'Oise, puisque le cabinet a 100 ans, et qu'il est historiquement installé à Pontoise, mais également à Paris, puisqu'on a un bureau secondaire à Paris, dans lequel nous pouvons effectivement recevoir la clientèle également. le cœur de mon activité, donc je l'ai dit, c'est le droit des affaires, le droit du travail. Et le droit du travail est une matière auquel j'attache beaucoup d'importance. J'ai eu l'occasion d'intervenir à la faculté de droit en tant que chargé d'enseignement dans cette matière auprès des étudiants de Master 1 en droit du travail approfondi. Donc l'occasion de partager de l'enseignement avec eux également.
Bon, merci pour cette présentation. Alors le cabinet Vaudroit, on peut qualifier votre cabinet de grosse structure pour le Val d'Oise, parce qu'il faut le rappeler, donc il y a des structures, les avocats, les 500 avocats exercent soit comme collaborateurs, soit comme à titre individuel, soit comme associés, deux structures plus ou moins grosses. Là, vous avez tout de même 20 membres dans votre cabinet. Combien d'avocats vous m'avez
rappelé? Ça fait 13 avocats 13 au total. Avocats. C'est la particularité de notre cabinet de pouvoir offrir des services dans de nombreux domaines juridiques. C'est une force de notre cabinet, je pense. Ça intéresse notamment les chefs d'entreprise qui peuvent s'adresser au cabinet de manière assez générale en faisant intervenir différents avocats de la structure. C'est la force du cabinet, effectivement.
Et votre cabinet intervient beaucoup dans la vie économique locale. Je crois que vous êtes régulièrement présent sur les salons comme Effervescence. Vous êtes peut-être membre de la CPME, où vous êtes intervenu auprès de la...
On est intervenu, effectivement, régulièrement dans des salons type Effervescence. L'occasion également nous a été donnée d'intervenir pour tenir des conférences à la... au bénéfice de la Chambre de commerce. Ce sont des événements où nous pouvons effectivement rencontrer nos partenaires valdoisiens, qu'on finit par connaître et on se reconnaît. Donc c'est très, très agréable de travailler dans un environnement comme celui-ci dans le Val d'Oise. Et donc de pouvoir avoir ces relations privilégiées avec ses partenaires économiques.
Un cabinet, donc, et vos droits très visibles, très présents sur le département du Val d'Oise. Moi, j'ai connu le cabinet Farge, qui est devenu le cabinet Vaudroit. Donc, à l'époque, j'étais collaboratrice au cabinet Farge et j'ai énormément appris dans ce cabinet. Merci pour toutes ces précisions, Maître Sébastien Thau. Maître Linda Deradji Deloire, les auditeurs vous connaissent bien maintenant, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler votre parcours, comment vous êtes devenu avocat et nous présenter votre cabinet qui est aussi un cabinet interbarreaux comme le cabinet Vaudroit? Je crois que vous avez un cabinet à Pontoise, n'est-ce pas, et un cabinet à Paris.
Oui, tout à fait, effectivement. Alors moi, j'ai eu un master 2 en contentieux civil à la faculté de Paris 13 avant de passer l'examen d'avocat, effectivement, comme mes confrères. J'ai été ensuite à l'EFB, qui est l'école de formation du barreau à Paris, pendant 18 mois avant d'obtenir donc le CAPA en 2012. J'ai prêté serment donc en septembre 2012 avant de commencer en collaboration également au sein du cabinet Judicis, cabinet dans lequel j'y suis restée 6 ans avant qu'on me propose une association également en fin d'année 2018. Alors actuellement, donc, je suis associée du cabinet Judicis. Nous sommes 3 associés, un avocat collaborateur et 2 secrétaires. Et nous sommes effectivement un cabinet également interbarreaux, Paris-Pontoise. On a une adresse à Paris également. Et nous sommes aussi également un cabinet pluridisciplinaire, puisqu'on intervient dans plusieurs domaines, famille, divorce, travail, construction et préjudice corporel.
Alors, je vous avais reçu à l'époque en droit de la famille et aujourd'hui, vous répondrez aux questions des auditeurs en droit de la sécurité sociale, qui est, je pense, le parent du droit du travail. J'imagine que les dossiers que vous avez en droit du travail peuvent avoir un aspect droit de la sécurité sociale et vous pourrez du coup répondre aux questions de nos auditeurs dans cette matière. Merci pour ces précisions, Maître Deradji Deloire. Nous allons donc commencer à répondre aux nombreux questions des auditeurs que nous avons reçues par mail à l'adresse tldidfm@gmail.com. Maître Stéphane Alemo, nous avons besoin de votre expertise en droit du travail. Alors, on a reçu des questions qui émanent tantôt d'employeurs, tantôt de salariés. Et je vous propose de répondre à cette première question avant que nous marquions une courte pause musicale. La question est la suivante. Je viens d'être licencié pour faute grave. Est-ce que je peux bénéficier des allocations chômage?
Alors, je vais essayer d'être concis, puisque vous l'avez dit, il y a beaucoup de questions, donc j'imagine beaucoup de réponses. On va essayer de les traiter les unes après les autres de manière assez synthétique. Alors, pour répondre directement à la question, je viens d'être licencié pour faute grave, est-ce que je peux bénéficier du chômage? La réponse est oui, parce que les cas d'exclusion au chômage sont assez restrictifs. On est privé de chômage si la rupture du contrat de travail provient de l'initiative du salarié. C'est la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail. Et là, dans ces cas-là, effectivement, vous êtes privé d'emploi, mais de votre fait à vous. Par exemple, si vous démissionnez. Là, en l'espèce, c'est un salarié qui est licencié. L'initiative de la rupture, la volonté de rompre le contrat de travail, elle émane de l'employeur. Donc, ce qui fait que le justiciable est involontairement privé de son emploi, du fait, en tout cas, de la décision de quelqu'un d'autre, en l'espèce de son employeur. La réponse est oui. Si vous êtes licencié pour faute grave, vous pouvez bénéficier du chômage. Juste pour l'information complète du justiciable, il y a différents degrés dans les fautes réalisées par les salariés et qui ont des conséquences, non pas sur l'indemnité de chômage, où là, à partir du moment où c'est l'employeur qui vous licencie, vous avez votre chômage, mais quand vous êtes licencié, en principe, vous avez droit à certaines indemnités de licenciement prévues par la loi, de préavis, etc. En fonction de la gravité de la faute que vous commettez, vous avez commise, vous pouvez en être privé. La première faute, c'est la faute simple. Voilà, une faute qui est tout à fait, qui justifie un licenciement, mais pas abrupte. Là, vous avez droit à l'ensemble de vos indemnités. Chômage, et puis indemnité de licenciement et de préavis. Si vous commettez une faute grave, la faute grave, c'est une faute qui a un degré un petit peu plus sévère, je dirais. C'est la faute qui est suffisamment grave pour priver le salarié d'effectuer son préavis. C'est-à-dire qu'on, ça justifie un licenciement, mais sec. Sans même que vous puissiez effectuer votre préavis, puisqu'il y a une certaine gravité. Et après, au-dessus, vous avez la faute lourde. La faute lourde, c'est la faute qui est réalisée par un salarié avec une intention de nuire à son employeur. Par exemple, si vous détournez la clientèle de votre employeur pour constituer votre propre entreprise à côté, on peut considérer qu'il y a une intention de nuire. Mais quoi qu'il en soit, dans toutes ces hypothèses-là, à partir du moment où la rupture vient de l'initiative de l'employeur, vous avez droit au chômage.
Donc on peut rassurer cet auditeur, il peut bénéficier des allocations chômage de... Alors c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail maintenant.
Oui, France Travail.
Bon, pas de commentaire sur ce nom. Mais bon, d'accord. Donc ça, c'est une première nouvelle rassurante. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste préciser le délai dont dispose ce salarié s'il voulait contester son licenciement pour faute grave?
Alors c'est un an à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail. Que le salarié, s'il agit au-delà de ce délai-là, il serait plus recevable à contester, même s'il serait bien fondé à le faire, son licenciement devant le Conseil des prud'hommes.
Alors, je le rappelle souvent dans cette émission, il y a des délais à respecter quand on veut saisir la justice. Et ces délais peuvent parfois être très brefs. D'où la nécessité systématiquement de se rapprocher d'un avocat compétent, ne serait-ce que pour bénéficier d'un conseil sur ses droits et connaître les délais pour saisir les juridictions. Merci beaucoup pour cette précision. Nous avons reçu une deuxième question d'un auditeur qui nous précise « Je suis prestataire dans une société depuis 10 ans en CDI. Le client ne veut plus renouveler le contrat de mon employeur et mon employeur veut me licencier. Ce licenciement peut-il être considéré comme économique ?»
Oui et non, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a des contrats très particuliers, ce sont bien des CDI, contrats à durée indéterminée, mais on appelle ça des contrats de chantier ou d'opération. C'est-à-dire qu'un salarié est embauché par une société pour être ensuite dépêché au sein d'une tierce société uniquement pour réaliser une opération déterminée. Voilà. Et à partir du moment où cette opération-là est terminée, qu'il n'y a plus de travail ensuite auprès de ce prestataire-là, ça met fin au contrat à durée indéterminée. C'est pas pour le coup un licenciement économique, c'est un licenciement pour un motif qui était prévu dès le départ, dès la conclusion de contrat de travail. Donc je ne sais pas si l'auditeur est dans ce cas de figure-là, mais s'il bénéficie d'un contrat de chantier d'opération, la situation est un petit peu particulière. Si c'est pas le cas, si c'est un salarié qui est embauché à durée indéterminée dans une entreprise qui après effectivement a dépêché dans d'autres au sein d'autres prestataires, la réponse elle n'est pas si automatique que ça. Le motif économique il est défini par la loi, par le code du travail. En l'occurrence, la suppression de son poste de travail qui est liée soit à des difficultés économiques de son entreprise, soit à une réorganisation d'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, etc. Il est évident que dans ce cas de figure-là, si l'employeur de ce salarié-là n'a pas d'autre travail à lui fournir et que la perte de ce chantier-là que constitue pour ce que cela constitue pour son employeur peut effectivement constituer, caractériser une difficulté économique, mais ce n'est pas strictement automatique. Donc la réponse elle est mi-fig mi-raisin, oui ou non, mais soyez rassurés, avant de nous licencier pour motif économique, l'employeur doit respecter certaines obligations, notamment il doit d'abord essayer de vous reclasser dans l'entreprise, au besoin, en adaptant un petit peu votre poste de travail, vos fonctions de travail. Ensuite de cela, si l'obligation de reclassement, elle aboutit au fait qu'on peut pas vous reclasser soit dans l'entreprise, soit éventuellement dans le groupe, dans lequel fait partie votre employeur, l'employeur, avant de vous licencier, vous, plutôt qu'un autre, doit aussi fixer des critères d'ordre de licenciement en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise, les fonctions que vous employez, de vos charges de famille, etc., etc., etc. Mais là, en l'occurrence, pour répondre très précisément à la question de votre auditeur, non, c'est pas nécessairement un motif économique pour un employeur d'avoir perdu un chantier. Ça peut l'être si ça entraîne véritablement des difficultés économiques et des questions de pérennité de l'emploi au sein de l'entreprise. Là, oui, mais c'est pas strictement automatique.
Très bien. Non, c'est pas une réponse de Normand, ni oui, ni non, mais c'est ce qui prouve que ce sont des matières techniques et que chaque cas mérite une étude particulière. Et cette question en est l'illustration parfaite.
Oui.
Merci beaucoup. On se retrouve juste après une pause musicale pour la suite de l'émission Tous les droits.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in everything.
IDFM Radio, 98FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Et nous poursuivons les réponses aux nombreuses questions des auditeurs avec Monsieur Stéphane Alémo, notre bâtonnier. Nous avons reçu une troisième question pour vous. Mon employeur a installé des caméras de vidéosurveillance dans le magasin où je travaille depuis 10 ans sans m'en informer. Est-ce autorisé ? Peut-il utiliser la vidéosurveillance comme moyen de preuve contre moi ?
Oui, alors d'abord quelques rappels généraux. C'est effectivement possible pour un employeur d'installer des caméras de vidéosurveillance au sein de l'entreprise pour assurer, nous dit la loi, la sécurité des biens et des personnes. Voilà, donc un objectif prédéfini par la loi. Si vous respectez cet objectif, tout va bien. Si vous ne le respectez pas, tout va mal. Il est notamment interdit de se servir des caméras de surveillance uniquement pour surveiller la qualité du travail fourni par son salarié. Donc, on ne peut pas mettre une caméra devant ou derrière chaque salarié juste pour voir s'il travaille bien ou pas. Ça, c'est strictement interdit. Sont par exemple autorisées les caméras à l'entrée et la sortie d'un magasin, puisque là on parle d'un magasin, ou alors notamment dans les entrepôts, ou sinon au niveau des caisses, pour vérifier qu'effectivement il ne peut pas y avoir de vol, que ce soit de la part d'un client, mais aussi peut-être de la part d'un des salariés. Donc là c'est tout à fait autorisé et possible. Sont interdites, à contrario, les caméras dans des zones de pause, par exemple des salariés, voilà, on a des zones de repos, là c'est tout à fait interdit, et bien sûr aussi dans les toilettes, je vous le dis, mais ça paraît anecdotique, mais c'est déjà rencontré dans la réalité, donc tout ça c'est un petit peu interdit. Est-ce que l'employeur peut le faire comme cela, comme bon lui semble ? Non, il faut effectivement une information des salariés. Il y a un double, en fait, degré de niveau d'information. Il y a d'abord une information collective des salariés. S'il y a des représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur doit, avant d'installer les caméras, les consulter sur la mise en place de ces caméras, répondre aux objectifs, etc., les endroits où ça serait fait, la durée de conservation notamment des données, des enregistrements. Donc ça, c'est quand même très important aussi. Donc ça, c'est le premier niveau. Au niveau collectif, si vous avez des représentants de personnel, et quand même il n'y aura pas de représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur doit informer individuellement chaque salarié de la présence des caméras. Il le fait de différentes façons, soit par l'annonce, par une note de service, soit par un affichage, pour dire voilà, il y a des caméras à tel endroit qui sont destinées à filmer telle chose. On indique l'objectif de ces captations d'images, la durée de conservation des données, la possibilité pour le salarié d'accéder à ces données, éventuellement d'effacer si on voit que ça correspond pas à l'objectif qui était prédéfini. Donc il y a quand même des moyens, des garde-fous, je dirais, à disposition des salariés, puis il y a des autorités de contrôle, notamment la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, à laquelle tout salarié peut s'adresser, puisqu'il y a captation de données qu'on peut considérer comme données personnelles dans certains cas de figure. Est-ce que ensuite, pour répondre à la fin de cette question, est-ce que l'employeur peut se servir de cette captation d'image pour moyen de preuve contre moi, notamment s'il envisageait de me licencier ? Oui, si les caméras de surveillance ont été installées dans les règles de l'art, en respectant la loi, donc là, effectivement, il n'y a aucune objection à ce que l'employeur puisse éventuellement s'en servir, et non, à contrario, si tout ça était fait au travers de tout et des textes en vigueur. Quoique la jurisprudence, ce sont les décisions de justice. Ce qui est important quand même pour l'auditeur à savoir, la norme, c'est la loi. Mais la loi laisse souvent une interprétation au juge, aux cas de figure concernés. Là, en l'occurrence, la jurisprudence, donc les décisions de justice, la Cour de cassation notamment, qui est la plus haute instance en France, considère que l'employeur peut quand même se servir d'images qu'il aurait captées par un système de visio, de caméras de surveillance, quand bien même il n'aurait pas respecté les règles pour les mettre en place. À la seule condition que c'est le seul moyen de preuve pour l'employeur, pour prouver des fautes contre un salarié. Si l'employeur a d'autres moyens de preuve, des audits, des témoignages, etc., il ne pourra pas se servir des images de vidéosurveillance. Si c'est son seul moyen de preuve pour prouver des fautes contre un salarié, la Cour de cassation, c'est une évolution, a tendance à dire que oui, on pourrait s'en servir. Mais c'est vraiment, je pense, des cas tout à fait marginaux. Très clairement, oui, on peut se servir des images si c'était fait dans règle de l'art, et non si ça n'a pas été.
Merci pour ces rappels. J'espère que les auditeurs ont été tout oui. Attention, vous êtes filmés globalement. Oui, c'est ce que c'est je ça. Retiens. Et puis, alors, je vous parlais de la jurisprudence, donc toutes ces décisions rendues par les instances, alors conseil de prud'homme, après la cour d'appel, la cour de cassation, que les avocats consultent régulièrement pour connaître l'interprétation de la loi, puisque vous l'avez rappelé, il y a la loi, puis après il y a l'application qu'on en fait et l'interprétation par les juridictions. Et je ne sais pas si vous avez une observation à faire, puisque vous exercez beaucoup en droit du travail, concernant l'utilisation des réseaux sociaux, parce que c'est une vraie problématique, ça aussi. On retrouve dans les dossiers, des fois, des extraits LinkedIn ou des posts Instagram pour alimenter les dossiers au contentieux concernant les agissements des salariés. Est-ce que...
Oui, après, ce sont des données publiques. Il faut quand même pas oublier que chaque salarié, il a une vie privée et personnelle. Donc, normalement, on scinde quand même les choses. Votre vie à l'entreprise, c'est une chose. Votre vie à côté et personnelle en est une autre. Mais parfois, vos agissements, vos comportements dans le cadre de votre vie privée peuvent avoir des répercussions sur l'exécution même de votre contrat de travail, sur votre intégrité aussi, qui parfois est recommandée en fonction du poste que vous pouvez occuper au sein d'une entreprise. Donc nécessairement, ça peut avoir un impact. En général, quand même, la jurisprudence tente à vraiment scinder les deux, mais il peut y avoir des interférences avec des limites en fonction de la gravité des choses qui peuvent être dites, écrites sur Internet. Après, évidemment, ce sont des données publiques. À partir du moment où vous voulez vous-même les verser sur le lieu public, vous exposez à ce que tout le monde puisse les voir, à commencer par votre employeur. Donc, il faut quand même être assez prudent.
Donc, attention à ce que vous publiez.
Exactement.
En plus. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, dernière question pour vous. J'emploie 10 salariés. Ah, donc là, on a une question d'un employeur. J'emploie 10 salariés dans le domaine du conseil et les salariés disposent chacun d'un bureau. Je crois que c'est une précision importante. J'envisage cependant d'interdire la cigarette électronique en raison de désagréments causés à certains salariés. Comment puis-je procéder ?
Alors c'est assez simple entre guillemets puisque c'est vraiment réglementé. Pour le coup, c'est pas par le code du travail parce que là encore, ça fait partie de la complexité de notre droit français. On a un code du travail qui est censé régir les relations entre un employeur et ses salariés, mais vous avez des interférences avec d'autres dispositions légales, d'autres codes. En l'occurrence, c'est le code de la santé publique qui prévoit, puisqu'on est aussi en matière de santé publique quand on parle de soit de cigarette électronique. Tout est réglementé par ce code-là. Ce qui est autorisé, on peut vapoter, parce que c'est le terme qu'on emploie, dans un lieu collectif de travail avec accueil du public. À partir du moment où c'est ouvert au public, c'est un lieu collectif, on peut vapoter, ce que nous dit le Code de la santé publique. On peut aussi vapoter dans un bureau individuel. Ça, c'est le principe. Voilà. Le principe, c'est que c'est pas interdit. C'est interdit, par contre, de vapoter dans un lieu public, un lieu de travail collectif, sans public. À partir du moment où vous partagez des locaux avec d'autres salariés, pour pas les déranger, c'est interdit. Donc, pour faire simple, pour répondre à la question là, a priori, c'est pas a priori, c'est ce que prévoit la loi. Vous avez un bureau individuel, ça vous est autorisé, ça, en tout cas, ça vous est pas interdit. Par contre, à partir du moment où vous partagez un local, même si c'est pas ouvert public, et vous êtes avec d'autres collègues de travail, c'est interdit. Voilà, pour des raisons de santé publique. Néanmoins, nous dit la loi, l'employeur peut restreindre cette possibilité-là de vapoter même dans un bureau qui est fermé, mais il faut que l'employeur justifie ça par une cause entre guillemets qui surpasse l'intérêt personnel de celui qui occupe le local seul. Là, c'est assez simple puisque l'employeur, parmi ses obligations, il en a une qui est vraiment fondamentale, c'est de préserver la santé de ses salariés. S'il considère que le fait de vapoter, même dans un bureau individuel, peut à un moment donné ou un autre interférer sur le travail ou la vie des autres salariés, il peut considérer pour des questions de santé publique, d'hygiène, de sécurité, de l'interdire. Et comment il peut le faire ? Soit il le fait par le biais d'un règlement intérieur, s'il a un règlement intérieur. Règlements intérieurs sont des règles internes à chaque entreprise et qui sont après opposables aux salariés. Quand vous êtes embauché, on vous fait signer le règlement intérieur, vous en avez pris connaissance. Et si vous vous écartez de ce règlement intérieur, vous pouvez être sanctionné. Et s'il n'y a pas de règlement intérieur dans l'entreprise, parce que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, au-dessus de 50, c'est obligatoire, en dessous, ça ne l'est pas. Mais néanmoins, l'employeur peut l'interdire avec une note de service, mais il doit vraiment justifier de l'intérêt de le faire, du fait de la promiscuité entre les salariés, etc. Donc même si on est dans un bureau individuel, le principe, oui, c'est autorisé, mais l'employeur peut vous l'interdire en le justifiant. Alors si vous le faites, moi je vous inviterai quand même à faire en sorte que les salariés qui veulent vapoter puissent soit se retirer dans un local spécialement dédié à ça, si toutefois, bien sûr, cela vous a permis du fait de la configuration de vos locaux, soit de leur permettre aussi d'avoir des pauses, hein, comme il existe des pauses cigarettes, des pauses vapotage, c'est pas interdit non plus.
Ouais, c'est vrai, la pause vapoteuse, ça existe maintenant. On va vapoter ensemble.
Exactement.
Mais c'est une question pas inintéressante, d'autant plus que les façons de travailler ont changé, notamment avec la crise Covid. Il y a beaucoup d'open space maintenant, donc c'est la question peut se poser dans ces configurations-là. Et en tout cas, merci pour la précision de votre réponse. J'ai entendu, et c'est important aussi que les auditeurs l'aient en tête, cette notion de règlement intérieur dont il faut avoir connaissance et consulter même peut-être régulièrement, parce que j'imagine que c'est des documents qui se modifient aussi, qui doivent être affichés.
Oui.
C'est un peu la loi.
Et publié aussi, on doit les adresser à la direction du travail, au greffe du conseil des prud'hommes. Donc l'employeur peut pas faire tout et n'importe quoi. Ce sont des règles qui sont communes, mais qui sont après nécessairement portées à la connaissance du salarié.
D'accord. Merci pour ces précisions, monsieur le bâtonnier. Je vous propose de marquer une nouvelle pause avant de retrouver maître Sébastien Thau pour la suite des réponses. Questions des auditeurs, à tout de suite.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
IDFM 98FM.
C'est tous les droits sur IDFM.fr aujourd'hui consacré aux droits du travail et de la sécurité sociale avec toujours à mes côtés maître Stéphane Alémo, maître Sébastien Thau, maître Linda Deradji Desloires et exerçant tous au barreau du Val d'Oise. Nous poursuivons notre émission avec maître Sébastien Thau. Nous avons reçu des questions qui vont nous permettre d'aborder la procédure de licenciement et l'aménagement du temps de travail notamment. Première question qui émane d'une salariée ou d'un salarié. Je travaille dans une entreprise en cessation de paiement et la liquidation judiciaire est à craindre. Comment se déroule la procédure de licenciement économique ?
Alors, il y a peut-être une précision à apporter à cet auditeur concernant la situation de son entreprise. Une entreprise en état de cessation des paiements, elle doit nécessairement, en principe, être placée sous le coup des règles, des procédures collectives, donc soit un redressement, soit une liquidation. Donc si l'entreprise de notre auditeur est déjà en état de cessation des paiements, ne peut plus régler, par exemple, ses fournisseurs, eh bien, l'état de liquidation judiciaire ou l'état de redressement, en tout cas un jugement, devrait être rendu à bref délai par le tribunal de commerce compétent sur le ressort. Mais c'est important, l'état de liquidation judiciaire n'implique pas nécessairement la rupture du contrat de travail du salarié. C'est une précision importante puisque il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont placées sous le statut des entreprises en difficulté et qui vont faire l'objet d'une cession, soit dans le cadre d'un plan de redressement, soit dans le cadre d'opérations de liquidation judiciaire, ou le mandataire, durant lesquels le mandataire va tout simplement rechercher un repreneur. Et parmi les critères de choix de ce repreneur, il y a le volet social, qui est l'un des éléments du dossier que doit présenter le repreneur. Et évidemment, le tribunal de commerce sera très attentif au fait que le repreneur se propose de conserver un nombre conséquent de salariés de l'entreprise. Il doit lister les postes et donc formuler sa proposition en intégrant ce volet. Si si notre auditeur devait être dans la configuration où le poste est maintenu, eh bien son contrat de travail sera automatiquement transféré au repreneur de plein droit. C'est l'application de l'article L1224-1 du Code du travail. Le contrat de travail est transféré sans modification. L'ensemble des droits du salarié sont préservés dans le cadre de cette reprise du contrat de travail. Si malheureusement, et c'est là l'hypothèse qui était évoquée par l'auditeur, son contrat de travail n'était pas conservé, ou si l'entreprise tout simplement fait l'objet d'une sorte de liquidation sèche pour laquelle on n'a pas de solution de cession, eh bien on doit effectivement envisager le licenciement de ce salarié. Alors c'est le travail du mandataire liquidateur, qu'on appelle aussi liquidateur judiciaire, et qui a donc pour mission de solder les comptes de l'entreprise en quelque sorte, et selon les cas de figure dans lesquels se présentent les opérations de liquidation, va devoir aviser un certain nombre d'intervenants à l'opération. Donc là je vous donne l'organisation générale de l'opération de licenciement, qui n'est pas toujours visible par le salarié, parce qu'il y a une partie qui va être visible, évidemment ça va être la partie que j'évoquerai après, c'est l'entretien et ce qui suit, mais il y a une partie qui se déroule en amont et qui va concerner donc le mandataire judiciaire, qui va organiser la liquidation de l'entreprise encore une fois, et pour cela il va consulter le CSE, évidemment s'il y en a un, il va informer la direction régionale de l'emploi, qu'on appelle la DRETS, du projet de licenciement qui est envisagé. Lorsqu'il s'agit d'un grand licenciement économique, c'est même une demande de validation du plan qui est formulée. Et puis, il y a un autre intervenant très important de ces opérations, c'est le juge commissaire. C'est un juge dédié du tribunal de commerce qui est affecté, en l'occurrence, au suivi de notre entreprise et qui va, lui aussi, devoir se prononcer sur le licenciement. L'idée est d'éviter des fraudes, d'éviter que l'ancien dirigeant n'ait pu organiser, finalement, une sélection des salariés qui restent et de ceux qui doivent partir. Et donc, le juge commissaire doit également veiller à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions. Dernière étape, et c'est celle qui est la plus visible évidemment, c'est celle qui concerne directement l'auditeur, c'est l'étape de notification du licenciement. Donc il est évidemment convoqué, hein, là-dessus on respecte ce qui est prévu dans tous les cas de licenciement, qu'il soit personnel ou économique, dans tous les cas de figure, il y a un entretien préalable. Et à l'issue de cet entretien préalable, eh bien le liquidateur, le mandataire judiciaire, va notifier une lettre de licenciement pour motif économique, visant évidemment la procédure collective. Alors la particularité des licenciements économiques dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire, c'est qu'il y a des délais. Alors je vais pas les détailler, mais qui ne sont pas à respecter, qui sont plus courts. Du coup, le mandataire n'a pas les mêmes contraintes qu'un employeur lambda qui serait confronté à des difficultés économiques et contraint de licencier. Il devra, de la même manière que dans un licenciement économique classique, proposer une CSP, un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés qui travaillent dans une entreprise de moins de 1000 salariés. Là encore, comme le disait notre bâtonnier, le délai de contestation de licenciement, puisqu'il existe toujours des motifs de contestation possibles, même dans le cadre d'un licenciement, dans le cadre d'une procédure collective, eh bien le délai, il est de 12 mois, donc toujours être très vigilant à ces questions de délai, 12 mois à compter de la réception de la lettre de notification du licenciement.
Les fameux délais dont on parle régulièrement dans cette émission, merci pour cette réponse extrêmement complète. Alors c'est vrai que les salariés sont toujours très inquiets quand il y a des situations qui semblent difficiles économiquement, mais votre réponse est plutôt rassurante. Des solutions existent s'il y a un repreneur, et puis il y a une procédure très stricte et exigeante pour procéder au licenciement d'un salarié dans ces circonstances. Maître Stéphane Animaux, vous voulez réagir?
Juste compléter le propos qui est pourtant été complet par mon confrère, mais simplement pour rassurer aussi vos auditeurs, on parle de sociétés qui sont en difficulté économique, financière. Donc on peut aussi se heurter à des cas de figure où les salariés n'ont pas simplement été payés de leur salaire depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il faut juste rappeler qu'en la matière, il y a une assurance garantie des salaires, les AGS, qui prennent en charge non seulement éventuellement les indemnités de rupture qui sont liées au licenciement économique du fait du redressement de la liquidation judiciaire d'entreprise, mais qui vont aussi prendre en charge, dans certaines limites, mais néanmoins elles sont assez larges tout de même, éventuellement les indemnités ou les salaires qui n'ont pas été versés aux salariés. Donc il y a quand même des garanties de règlement, même si c'est une société qui est en faillite, pour parler simplement, les salariés doivent être rassurés sur le fait que, en ce qui les concerne, il y a des caisses qui permettent de régler à la place de l'employeur.
Merci de le rappeler, parce qu'il y arrive aussi, souvent c'est pas le mot, mais on peut aussi lancer des procédures de contestation de licenciement, et en cours de procédure, la société est liquidée, et ouais, le premier réflexe des fois des clients, c'est de dire ah bah c'est fichu, j'aurai jamais mon argent. Donc vous avez raison de le rappeler, merci monsieur le bâtonnier. Nous avons reçu une deuxième question, cette fois d'un gérant d'une SARL qui nous indique: je suis gérant d'une SARL et j'embauche un salarié depuis 2 ans. Je suis parti en congé au mois d'août 15 jours et j'ai confié à mon salarié le soin de s'occuper du magasin, donc il nous précise ouverture, fermeture, gestion des clients. Et à mon retour, les clients m'informent que non, mon employé n'était pas présent le matin et qu'il s'est fait remplacer sans mon autorisation. J'ai convoqué mon employé qui conteste les faits, je veux procéder à son licenciement, comment y procéder ?
Alors nous sommes dans l'hypothèse d'un licenciement disciplinaire, et il faut imaginer que les fonctions qui avaient été dévolues aux salariés pendant ces 15 jours, dans notre postulat, on imagine que c'était quelque chose qui rentrait dans le cadre de son contrat de travail. Alors, le premier réflexe pour notre auditeur, dirigeant, c'est de constituer un dossier. Évidemment, le risque, lorsqu'on se sépare d'un salarié, c'est le contentieux prud'homal. C'est un risque qui n'est pas négligeable. Pour de petites structures, ça peut être très très lourd de conséquences. On parlait de liquidation judiciaire il y a quelques instants. Il y a quand même nombre d'entreprises qui ne peuvent pas faire face à des condamnations prud'homales et qui sont amenées à déposer le bilan pour des condamnations prud'homales pour des montants très importants. Donc, constituer un dossier est un point de départ évidemment déterminant. Ça va passer notamment, là j'entendais dans les propos de l'auditeur, qu'il a été informé par des clients que les tâches étaient effectuées par une autre personne que le salarié. Mon premier conseil, c'est de lui dire: prenez contact avec ses clients. J'espère que c'est des clients récurrents qui vont pouvoir attester par écrit. Donc, il faut remplir un document de manière manuscrite en y joignant sa pièce d'identité pour confirmer la thèse de l'employeur selon laquelle ce n'était pas son salarié qui effectuait les tâches. Donc, la constitution du dossier, c'est vraiment un élément déterminant qu'il faut faire le plus tôt possible pour anticiper un éventuel contentieux. La deuxième chose sur laquelle il faut s'interroger, à mon avis, c'est la nature de la convocation. J'ai entendu que notre auditeur a convoqué son employé. S'agissait-il d'une convocation entretien préalable ? Oui, non. On a la possibilité, parfois, dans des cas de manquement du salarié, d'organiser une enquête. Et dans le cadre de cette enquête, il peut y avoir des échanges plus ou moins formels, organisés par l'employeur. S'agissait-il d'une convocation de cette nature ? S'agissait-il d'un entretien préalable ? Selon le cas de figure, évidemment, le déroulement sera un peu différent. Si l'on part du principe que c'était un entretien informel, eh bien, il va falloir reconvoquer le salarié, évidemment, dans le cadre d'un entretien préalable, au cours duquel il pourra se faire assister pour, le cas échéant, défendre ses intérêts. Donc, il y a évidemment cette étape-là qui est très importante. Il y a une autre étape déterminante, à mon avis, dans le raisonnement que doit avoir l'auditeur, c'est s'interroger, vérifier, là on n'a pas les éléments malheureusement, sur la convention collective applicable à son entreprise, l'existence ou non, mais ça il doit le savoir, d'un règlement intérieur qui peut donner une gradation dans les sanctions à notifier à un salarié. Il y a même des entreprises dans lesquelles il y a des commissions disciplinaires préalables à toute sanction. Donc il faut s'assurer que les conditions sont réunies pour aller vers l'entretien préalable et qu'il n'y a pas une étape antérieure à respecter. Hein. Si on se trouve à la table de l'entretien préalable, eh bien l'employeur devra être vigilant. Il a un délai de prescription qui est 2 mois. On parlait des délais, il est très important. 2 mois à compter de sa connaissance exacte des faits. Hein. Si un préposé lui a ramené le sujet, il doit évidemment intervenir dans le délai de 2 mois. Et une fois que l'entretien préalable a eu lieu, il a un délai d'un mois pour notifier sa sanction disciplinaire. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'au licenciement, évidemment. Il peut se raviser, mais il doit donc notifier cette sanction. Alors, le délai de notification, il ne peut pas être cette notification ne peut pas intervenir avant un délai de 2 jours ouvrables à compter de l'entretien préalable. Donc voilà les conseils de principe qu'on peut suggérer à notre auditeur, tout en lui indiquant que sa lettre de licenciement devra être précisément motivée, avec des dates, si possible, des faits extrêmement précis, pour pouvoir avoir un élément précis et matériel vérifiable s'il y a un contentieux judiciaire.
Merci pour toutes ces précisions. Bon, je fais du mauvais esprit, mais s'il avait une caméra de vidéosurveillance, ça aurait pu être utile aussi dans ce cadre-là. Je vous propose de marquer une nouvelle pause avant de poursuivre notre émission pour les dernières questions des auditeurs en droit de la sécurité sociale et droit du travail.
Why?
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Vous écoutez Tous les droits, mes invités du jour sont avocats en droit du travail et droit de la sécurité sociale et nous poursuivons cette émission avec Maître Sébastien Thaud. Une nouvelle question à votre attention, cette fois d'un salarié en CDI, d'une salariée. Je suis salarié en CDI dans une entreprise de prestations de nettoyage. Je travaille depuis 5 ans le matin de 5h à 9h. Mon employeur me demande désormais de travailler le soir de 18h à 20h, puis-je refuser la modification de mes horaires ?
Alors c'est une question intéressante, mais qui en cache une autre à mon avis, puisque quand on regarde de près la question des temps de travail, on s'aperçoit qu'il y a la question des horaires qu'il faut distinguer de la question de la durée du travail. Alors, effectivement l'employeur de notre auditrice veut modifier la durée du travail, là en l'occurrence, on voit qu'il y avait au départ 4 heures quotidien, et là on passera à 2 heures par jour. Il y aura une modification de sa durée du travail, et dans ces conditions, évidemment, notre salarié peut s'opposer définitivement à une modification telle qu'elle est proposée par l'employeur. Si la question de la répartition se pose différemment, que le volume d'heures global est respecté, mais qu'on ne touche qu'à la question de sa répartition, hein, de son horaire de travail, il faut envisager la question un peu différemment. Hein. On peut d'abord se demander si elle a été contractualisée. Alors, dans le domaine des entreprises de propreté, c'est assez rare qu'on vienne à contractualiser les horaires de travail. Ce sont des entreprises, et on le comprend bien, qui ont besoin de souplesse dans leur organisation. Ils dépendent évidemment de la demande de leurs propres clients qui vont faire varier les prestations dans le temps, le volume, la durée, etc. Donc, ils ont besoin de souplesse et on peut imaginer que le contrat de travail de notre auditrice, malheureusement, n'a pas sanctuarisé en quelque sorte la question de son horaire de travail, même si ça fait déjà 5 ans qu'elle travaille sur la même tranche horaire. Et on comprend bien qu'en 5 ans, elle a pu prendre des habitudes de vie familiale, de vie personnelle autour de cet horaire. Donc, en principe, la question de l'horaire de travail, lorsqu'il n'est pas contractualisé, c'est qu'il est à la libre disposition de l'employeur. Heureusement, la jurisprudence est venue mettre un certain nombre de freins à ce pouvoir, des contre-pouvoirs en quelque sorte, puisque l'employeur ne va pas pouvoir, sans aucune restriction, modifier les horaires de travail d'un salarié, le faire passer de jour à nuit ou de nuit à jour, évidemment sans autorisation de celui-ci. Ça serait une modification de son contrat de travail en réalité, et non pas un simple changement des conditions d'exercice. Même lorsqu'il s'agit d'une modification des horaires de travail sur la journée, hein, sur un temps de jour et non pas intégrant une partie de nuit, ce n'est pas le cas la concernant, mais on aurait pu l'évoquer. Donc là, en l'occurrence, c'est uniquement le jour. Eh bien, l'entreprise peut se trouver contrainte par le respect tout simplement au droit à la vie privée, l'organisation familiale, les temps de déplacement. En région parisienne, il y a quand même beaucoup de transports en commun, mais on peut imaginer que dans d'autres régions, c'est pas toujours aussi facile de modifier ses horaires de travail. Et donc, récupérer un enfant à telle ou telle heure, le déposer à l'école, c'est pas nécessairement aisé de modifier ses horaires de travail lorsqu'on a des obligations de cette nature. Donc l'employeur peut se trouver limité dans son pouvoir et le salarié bien fondé à lui opposer un refus dans notre cas de figure. Autre élément à prendre en considération qui pourrait amener notre auditrice à refuser cette modification de son horaire de travail, ce sont les dispositions du Code du travail, hein, c'est L 3123-6 du Code du travail, qui prévoit que lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, ce qui semble être le cas de notre auditrice, que le contrat de travail doit prévoir les cas de modification éventuelle de la répartition de l'horaire de travail. Si cela n'a pas été prévu, eh bien la salariée, notre auditrice, pourrait refuser tout simplement la modification de son horaire. Donc l'employeur ne peut pas se contenter dans le contrat de travail d'indiquer que ça sera à sa guise en fonction des besoins du service. Non, il faut qu'il soit très précis pour pouvoir, le cas échéant, tenter d'imposer une modification de l'horaire. Ça ne va pas être une chose aisée pour l'employeur, tant mieux pour la salariée qui pourra refuser et ne pas être légitimement licenciée ou sanctionnée si elle maintient son refus.
Oui, parce que si on refuse les horaires alors que l'employeur effectivement avait la possibilité de modifier, enfin de changer les... Voilà, là, c'est, on se retrouve dans une situation beaucoup plus délicate où c'est le salarié qui est en faute. D'où la nécessité de toujours se rapprocher d'un avocat, au moins pour avoir une consultation sur, voilà, toute décision dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doit être étudiée, pesée pour en mesurer tous les enjeux, les tenants et les aboutissants. Et puis, je rebondis, vous avez quand même, là, la salariée semble travailler dans une entreprise de prestation de nettoyage. C'est un domaine d'activité très particulier pour les avocats en droit du travail, parce qu'il y a aussi ces questions de perte de marché, avec les transferts des contrats de travail, c'est des dossiers dont on peut être régulièrement saisi. Donc, être avec un avocat spécialisé en droit du travail, et même des fois qui connaissent bien certains secteurs d'activité aussi.
Tout à fait. La convention collective de la propreté est une convention technique qui comporte un certain nombre de stipulations relatives au transfert de marché et au transfert donc des salariés. Ce sont des dispositions qui sont méconnues souvent des salariés et qu'il faut étudier avec eux pour leur rappeler leurs droits.
Vous avez raison de le souligner. Donc, on parlait des règlements de la loi, le code du travail, les règlements intérieurs, les conventions collectives. Donc, un avocat en droit du travail, il a du pain sur la planche quand il se saisit d'un dossier parce que, et je ne parle pas des textes internationaux qui sont aussi présents et qu'on doit appliquer. Donc, voilà. Encore une fois, j'entends souvent ça. Enfin, on peut entendre souvent ça dans nos cabinets. J'étais sur Internet, j'ai tapé la question. Voilà. C'est vrai que les auditeurs, bah, c'est comme quand on a des problèmes de santé, on va tous taper sur Internet pour avoir des avis de voilà, les clients le font aussi et c'est légitime de taper leurs questions sur Internet, de trouver des questions qui sont ou pas fiables ou pas complètes. Donc voilà, s'adresser à un avocat compétent dans son domaine pour être éclairé sur tous ses droits et ses obligations aussi, hein. C'est le pendant aussi dans les relations de travail, il y a des droits et des devoirs pour et les employeurs et les salariés. Une nouvelle question alors d'un dirigeant d'entreprise. J'ai une entreprise de 20 salariés et je souhaite organiser une réception. Ah, un moment festif. En présence des salariés avec nos clients en dehors des heures de travail. Puis-je imposer la présence de mes salariés à cet événement ?
Question délicate, parce qu'on peut imaginer qu'il s'agit d'un événement festif. On peut imaginer également que ça peut être un événement plus professionnel ou durant lequel les clients vont pouvoir échanger avec les commerciaux de l'entreprise. S'il s'agit d'un événement festif, je réponds assez simplement, pas d'obligation pour un salarié de participer à un événement festif. Je n'ai jamais vu et je ne crois pas pouvoir imaginer qu'un employeur vienne sanctionner un salarié qui ne soit pas venu à un pot. Ça paraîtrait totalement démesuré en tout cas. S'il s'agit d'un événement à vocation davantage commerciale, de promotion de l'entreprise, la question peut se poser de savoir si effectivement notre auditeur est contraint de participer à la réunion. La première chose à savoir, c'est que l'entreprise, l'employeur, a dans ses pouvoirs la possibilité d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires. Ça, c'est une possibilité qu'a l'employeur. Nous avons régulièrement des contentieux sur les heures supplémentaires. C'est souvent la question de savoir si le salarié les a effectivement réalisées, etc. Mais et il faut savoir que il peut y avoir un contentieux aussi qui est né tout simplement du pouvoir de l'employeur d'imposer à son salarié du temps de travail complémentaire. C'est une règle connue et qui s'impose à tous les salariés sans distinction. Néanmoins, l'employeur devra avoir pris le soin de prévenir son salarié avec un temps raisonnable pour ne pas le mettre dans une situation trop inconfortable. Et puis, il ne faudra pas que l'employeur ne se soit précédemment comporté, on va dire, de manière... un comportement qui ne soit pas conforme au droit du travail s'agissant des heures supplémentaires. C'est-à-dire que s'il y a eu des heures supplémentaires par le passé qui n'ont pas été rémunérées, évidemment, ça va être difficile d'imposer des heures supplémentaires, voire de sanctionner un salarié qui ne les aurait pas réalisées si lui-même n'a pas tenu ses propres engagements précédemment. Donc, le principe est que l'employeur pourrait, on peut imaginer, imposer un temps de travail supplémentaire. Mais il y a un mais, toujours évidemment, en droit du travail comme dans d'autres matières, il faut trouver un équilibre. Cet équilibre, il est à trouver du côté du respect de la vie privée du salarié. S'il y a un événement festif, il va peut-être se dérouler le soir, peut-être durer un peu tard, et cet événement va donc empiéter sur la vie privée de notre auditeur s'il y participe. Alors, j'imagine qu'il faut avoir une appréciation différenciée, à mon sens, selon les fonctions du salarié. Un salarié dans le cadre d'une réception à vocation commerciale, qui aurait lui-même des fonctions commerciales, on peut imaginer très bien un dirigeant d'entreprise imposer, dans le cadre de la réalisation d'heures supplémentaires, qui seront rémunérées comme du temps effectif du travail, sa présence sur site. Un salarié qui a une fonction qui n'a aucun rapport avec la promotion de l'entreprise, ça sera peut-être plus délicat, sauf évidemment à ce que c'est été précisé dans son contrat de travail, ou qu'il y a un usage, ou peut-être même une réglementation dans l'entreprise, il y a un règlement intérieur, mais ça va être peut-être plus délicat pour quelqu'un qui n'a aucune vocation commerciale dans ses fonctions. Donc, si le salarié est amené à participer, évidemment, il sera rémunéré pour ça, avec des majorations s'il s'agit d'heures supplémentaires. Voilà, en quelques mots, la situation du salarié.
Rémunéré pour un événement promotionnel sympa, ça peut être sympa aussi.
Voilà. Oui. Alors, je préciserai que, quel que soit le niveau de convivialité qu'on aura avec le client, ça sera de toutes les manières du temps de travail effectif à rémunérer.
Voilà. Très bien, vous avez raison de le rappeler, restons professionnels. Merci Sébastien Thau pour toutes ces précieuses précisions. Une dernière pause avant de retrouver Maître Linda Deradji des Loirs pour les questions des auditeurs en droit de la sécurité sociale. To stand in your arms without.
IDFM, 98FM.
Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Et nous terminons notre émission avec Maître Linda Deradji des Loires pour les questions suivantes des auditeurs. Le premier auditeur nous écrit « Je suis couvreur, je suis tombé du toit d'une maison alors que je débutais ma journée de travail. Est-ce que mon employeur peut être inquiété ?»
Alors, nous sommes sur le terrain de la faute inexcusable de l'employeur après un accident de travail. C'est le pôle social, donc anciennement appelé tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal judiciaire du lieu de l'accident, qui sera compétent pour traiter de ce litige. Et la faute inexcusable de l'employeur correspond en réalité au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et de résultat, révélée donc par un accident de travail ou une maladie professionnelle. Alors Sonia, pour répondre à la question de l'auditeur, l'employeur sera effectivement inquiété s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir et éviter le danger dont il aurait dû avoir conscience. Pourquoi ? Parce que la faute inexcusable, elle est caractérisée lorsque donc l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger. Et ça peut passer par l'absence de toute prévision raisonnable d'un risque. La faute peut aussi résulter d'une faute d'imprudence ou de négligence, voire de tolérance à une pratique dangereuse. L'employeur pourra être aussi inquiété s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ça résulte de l'article L4121 du Code du travail. L'employeur a manqué au respect de son obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié s'il n'a pas veillé à la santé et à la sécurité de ses salariés en mettant en place des actions et de prévention pour les préserver des risques auxquels ils pourraient être exposés. Donc dans le cas de l'auditeur, pour être plus concrète, l'employeur devait finalement fournir au salarié les équipements nécessaires pour le protéger, tels que par exemple des chaussures de sécurité, du matériel adapté pour l'exercice du métier de couvreur. Ça peut également passer par le fait de s'assurer que le salarié est bien formé et qu'il a l'expérience pour exercer son métier en toute sécurité. À défaut, effectivement, si l'équipement et les conditions de travail sont inadaptées et ont entraîné l'accident de travail de l'auditeur, alors la faute de l'employeur pourra être qualifiée d'inexcusable et effectivement il pourra être inquiété. La preuve des manquements de l'employeur incombe au salarié qui pourra obtenir alors une majoration donc de sa rente. C'est une rente qui est la rente est calculée donc par sécurité sociale après évaluation du taux d'incapacité du salarié, et il peut également percevoir une indemnité en capital. Donc lorsqu'on est employeur, il faut bien faire attention puisqu'un accident de travail ou une maladie professionnelle peuvent avoir des conséquences financières pour l'employeur, notamment lorsque le salarié conserve des séquelles qui sont indemnisables. Ce n'est pas l'employeur qui prendra en charge directement et personnellement la réparation des conséquences de l'accident du travail. En réalité, c'est la sécurité sociale, mais la sécurité sociale pourra ensuite se retourner puisque l'article 452.2 du Code de sécurité sociale prévoit que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions déterminées par décret. Autrement dit, c'est une cotisation supplémentaire à la charge de l'employeur qui vient s'ajouter aux cotisations sociales.
C'est très technique hein, votre réponse, Maître Linda Deradji des Loires. Donc ma question, peut-être pour les auditeurs, le contentieux devant le pôle social, c'est un contentieux sans représentation obligatoire.
Tout à fait.
Mais fortement recommandé d'avoir un avocat, surtout sur les questions de faute inexcusable, parce qu'il y a des délais aussi à respecter.
Oui, tout à fait. Il y a des délais qui sont impératifs sous peine de forclusion en fait de l'action donc de l'assuré ou du salarié. Et c'est une matière effectivement très technique. Le code de sécurité sociale est très dense et ça mêle aussi parfois d'autres matières comme le droit du travail, puisque on a parlé d'obligation de sécurité de résultat. Ça ressort d'une obligation de l'employeur qui figure aussi dans le code du travail. Donc c'est très recommandé effectivement d'avoir un avocat pour être représenté ou assisté quand on a affaire à ce type de contentieux.
Merci pour ces précisions. Une nouvelle question à votre attention d'un auditeur qui est arrêté depuis plusieurs mois suite à un burn-out. La CPAM refuse de reconnaître le caractère professionnel de ma maladie. Que puis-je faire ?
Alors, nous sommes là sur le terrain de la reconnaissance, effectivement, du caractère professionnel de la maladie. La reconnaissance, donc, faut savoir que la reconnaissance de la maladie professionnelle permet la prise en charge des frais médicaux pour le salarié, le versement éventuel d'indemnités spécifiques et la protection contre le licenciement. Alors, le burn-out est reconnu officiellement depuis 2019 par l'OMS comme maladie. puisque ça se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte souvent d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Et faut savoir de manière générale que les maladies professionnelles connues sont répertoriées par le code de sécurité sociale. Malheureusement, en ce qui concerne donc le burn-out, la nouvelle classification des maladies professionnelles qui est entrée en vigueur donc le 1er janvier 2022 ne mentionne pas le burn-out au titre des maladies professionnelles. Mais c'est plutôt mentionné comme un phénomène lié au travail. Pour autant, ça ne signifie pas qu'une maladie non répertoriée ne peut être reconnue comme maladie professionnelle. D'ailleurs, les maladies touchant l'état mental du patient peuvent être déclarées comme maladie professionnelle ou comme accident de travail. Et alors, pour répondre à la question de l'auditeur, pour faire reconnaître donc un burn-out en maladie professionnelle, il faut plusieurs éléments. Il faut une incapacité permanente de travail supérieure à 25%. C'est souvent donc chiffré par le médecin conseil de la CPAM, et il faut un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. Donc l'interlocuteur privilégié du salarié, pour le coup, ça sera la caisse, donc la caisse d'assurance maladie. Et que va faire la CPAM? Finalement, elle va recueillir donc l'avis d'un comité d'experts médicaux, donc c'est la CRRMP, Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui va décider donc du caractère professionnel ou non de la maladie. En l'absence de reconnaissance donc dans le code de la sécurité sociale, le burn-out donc n'est pas présumé, comme j'ai dit, maladie professionnelle. Il appartient donc au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre la maladie et les conditions d'exercice de son travail. La CRMMP dispose donc d'un délai de 4 mois pour rendre sa décision, et il peut être procédé à des examens complémentaires ou des enquêtes complémentaires. Les victimes donc d'un burn-out disposent d'autres actions en justice pour faire reconnaître donc la responsabilité de l'employeur et obtenir un dédommagement, à défaut d'aller devant le pôle social. Pour ce faire, le salarié pourra saisir le conseil des prud'hommes en prouvant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Merci beaucoup, Maître Linda Deradji-Desloires. Question effectivement du burn-out dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et pour autant, il n'est toujours pas rentré dans la classification au titre des maladies professionnelles.
Tout à fait.
Donc, il y a encore peut-être du chemin à faire sur ce sujet-là. Merci en tout cas. Troisième question pour vous. J'ai fait valoir mes droits à la retraite au 1er janvier 2024. Je ne suis pas d'accord avec le calcul retenu par la caisse pour ma pension. Que puis-je faire?
Alors, à titre liminaire, effectivement, on parlait des délais en matière de pôle social tout à l'heure. Et ben là, je vais l'évoquer pour cette question. Il faut préciser à l'auditeur qu'il dispose donc d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la caisse pour contester la décision prise par donc devant la commission de recours amiable. Donc, admettons, si le courrier de notification de retraite a été notifié à cet auditeur le 2 janvier 2024, il avait jusqu'au 2 mars 2024 pour écrire en recommandé avec accusé réception à la commission de recours amiable pour contester le mode de calcul retenu par la caisse et espérer effectivement que la caisse revienne sur sa décision. Si donc l'auditeur dispose ensuite d'un nouveau délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de recours amiable pour saisir la juridiction compétente, donc qui est le tribunal judiciaire pôle social, si la commission amiable répond par la négative ou en l'absence de réponse. Alors là, pour répondre de manière un peu plus précise à l'auditeur, s'agissant des modalités de calcul, ce sont toujours les mêmes finalement. Le montant de la pension est calculé comme suit. On prend le revenu annuel moyen qu'on multiplie par le taux de la pension qu'on multiplie par la durée d'assurance à l'assurance retraite. Donc le revenu annuel moyen, c'est souvent sur cette problématique donc qui a des litiges, c'est la moyenne des salaires bruts sur laquelle vous avez cotisé à l'assurance retraite pendant les 25 années les plus avantageuses de votre carrière, et si vous n'avez pas travaillé 25 ans ou moins de 25 ans, donc le revenu annuel moyen est égal à la moyenne des salaires bruts durant les dernières années travaillées. Petite précision importante, les revenus de l'année au cours de laquelle vous partez à la retraite ne sont pas pris en compte dans le calcul donc de la pension retraite. Et pour être tout à fait complète, donc je précise, parce que là aussi c'est souvent sur ce type de problématique qu'on a des litiges, que la durée d'assurance à l'assurance retraite représente donc l'ensemble des trimestres retenus par la caisse de retraite, à savoir les périodes au cours desquelles vous avez cotisé à l'assurance retraite, donc les trimestres d'assurance, les périodes d'interruption d'activité qui sont assimilées à des trimestres d'assurance, sont les périodes de maladie, longue maladie, accident de travail, congé maternité, puisqu'on cotise aussi période de chômage aussi, quand on est en interruption d'activité. Ce sont aussi les périodes de salariat pour lesquelles l'assurance retraite ne dispose pas de justificatif de vos cotisations, mais qui vont être validées au vu des preuves fournies. Donc généralement, c'est les bulletins de salaire. Hein, ce sont des périodes validées par présomption. Il faut quand même apporter un commencement de preuve ou une preuve. Et c'est également les trimestres d'assurance accordés gratuitement pour la naissance des enfants. Naturellement, je précise qu'une année ne peut comporter que 4 trimestres.
Merci beaucoup. Je vais aller consulter mon relevé de retraite là, mais je ne sais pas si ça va me faire du bien. Bon, dernière question. Je suis en arrêt de travail suite à une chute dans l'escalier au travail. La CPAM refuse de prendre en charge cet accident de travail. Que puis-je faire ?
Alors, nous sommes donc là, donc, dans le cadre d'un accident de travail. C'est l'article L411-1 du Code de la Sécurité sociale qui définit l'accident de travail comme tout accident survenu par le fait ou l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Ce fait accidentel doit être soudain. C'est ce qui le différencie bien souvent de la survenance d'une maladie professionnelle. Et il existe une présomption d'imputabilité de l'accident dès qu'il se produit sur le lieu ou pendant le temps de travail. Dès lors que donc l'assuré peut démontrer la matérialité de l'accident, cette présomption s'applique sans difficulté. On n'a pas forcément besoin de montrer un lien direct entre les conditions de travail et l'accident. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la survenance donc de cet accident, l'assuré doit le signaler à l'employeur, qui puis lui doit lui communiquer un certificat médical. Donc ce certificat indique les lésions et la probable incapacité de travail qui en découle. L'employeur de son côté lui transmet sans délai la déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM, qui dispose alors d'un délai de 30 jours pour se prononcer à compter de la réception du certificat médical. Je précise quand même que l'article R441-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que l'absence de réponse dans un délai de 30 jours vaut reconnaissance implicite de l'accident de travail. Bien souvent, ça, les salariés et les assurés l'ignorent, mais c'est quand même important de le préciser. Et pour répondre donc plus concrètement à l'auditeur, si la CPAM refuse de prendre en charge l'accident de travail, l'assuré peut contester ce refus. On revient sur les délais que j'ai rappelés dans les précédentes questions. C'est toujours le même délai. Effectivement, il dispose pour cela d'un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable, donc la CRA de la CPAM. Et la CRA dispose alors d'un nouveau délai de 2 mois pour se prononcer sur le recours. Le silence équivaut à un rejet implicite de recours. C'est aussi important de le préciser. Et en l'absence de réponse ou en cas de réponse négative, l'assuré pourra alors saisir le pôle social du tribunal judiciaire. À noter, si la CPAM considère que les lésions ne sont pas imputables à l'accident, une expertise médicale est nécessaire. Pour terminer, comme on a commencé, donc si l'accident de travail est reconnu, l'employé peut en parallèle agir contre son entreprise pour engager sa responsabilité. Une indemnité complémentaire est possible en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce que ça peut être le cas aussi dans la configuration évoquée par la question, en tout cas posée par l'auditeur qui est en arrêt et qui a chuté donc dans l'escalier. Pendant son arrêt de travail consécutif à un accident de travail, le salarié perçoit des indemnités journalières sans délai de carence. Les soins médicaux nécessaires au traitement de l'accident de travail sont également pris en charge à 100%. Dernière petite précision, le montant de l'indemnité journalière de la Sécurité sociale est obtenu en multipliant le taux journalier de référence par un taux égal à 60% pendant les 28 premiers jours, et il passe à 80% à compter du 29e jour d'arrêt de travail.
Merci Linda pour vos réponses extrêmement complètes. J'espère que nos auditeurs ont obtenu les réponses souhaitées ou ont appris des choses comme moi aujourd'hui. Une émission extrêmement riche. Je remercie mes 3 invités du jour pour leur disponibilité, leur bienveillance et leur professionnalisme. Maître Stéphane Alemo, vous reviendrez dans notre émission.
Oui, ce sera que la 5e fois, mais je reviendrai.
Ah voilà, on ne s'en lasse pas de cette radio et de ces émissions de grande qualité. Maître Sébastien Thon, je vous reverrai aussi.
Bien sûr.
J'espère pour la prochaine émission consacrée aux droits des entreprises et droits des sociétés, où nous avons déjà reçu des questions des auditeurs. Maître Deradji Deloire, merci beaucoup pour votre féminité cette émission du jour. Merci d'avoir été les invités de Tous les droits, une émission par vous et pour vous. Je recevrai une fois par mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à vos questions, parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée et belle semaine.